Jazz. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Présentement, 13h46 minutes après l'émission On en jase, c'est Gravel dans le retour. Manquez pas 16h30, Judith Demel sur cette histoire très effrayante de ce coach de cheerleading, Mathieu Martel, qui aurait agressé sexuellement des membres de son équipe et sur plusieurs années. Judith va venir nous décrire le procès qui se déroule depuis lundi. Également, gros invité dans Marceau le soir, Pascal CV.
Olivier Primeau, qui va paraître dans l'émission de Marceau le soir. Donc, dès 18h, vous allez pouvoir entendre cette conversation-là entre lui et Yann Marceau. Il faut savoir qu'Olivier Primeau, oui, influence importante, mais également homme d'affaires, surtout homme politique à en devenir. Du moins, il travaille très fort là-dessus. Puis c'est aussi la tête d'affiche quand on parle de ressources d'eau au Québec, la manière dont peut-être la protéger, la commercialiser. Donc, il y a beaucoup de sujets à discuter ensemble.
Je serais vraiment pas surpris de le voir se présenter aux prochaines élections. Boulevard 101 est fier de promouvoir encore une fois le festival Oceaga édition 2026 qui aura lieu du 31 juillet au 2 août au parc Jean Drapeau. Sur place cette année, 21 Pilot, Tate McRae, Lord Off Monster of Men, Franz Ferdinand, Turnzill et plus encore. Vous voulez gagner vos billets pour les 3 jours du festival? Oui, oui, t'as bien compris, 3 jours de festival. Reste à l'écoute du Boulevard du Rock ce week-end avec Dan Caron et Colosse. C'est tellement payant d'écouter la meilleure musique en ville. Tu pourrais repartir avec ton laissez-passer pour 3 jours pour le festival Oceaga. Les billets seront en vente ce vendredi dès 10h via Evenco. On va justement rejoindre un de nos collaborateurs qui est établi à Montréal, l'excellent Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gab, t'es-tu un fan d'Oceaga?
Ben, c'est sûr que ce serait bien le fun de gagner une paire de billets, je te mentirais pas. Là.
Mais t'es avec nous, tu peux pas.
C'est ça. Je t'inquiète, mais toujours agréable, oui. Ouais. The 21 Pilots, en tout cas.
C'est ça. Gabriel, si à Oceaga, on a des spectacles de musique, on a un bon spectacle d'humour ce matin à l'Assemblée nationale à la période des questions. Je te fais écouter Éric Girard, notre ministre des Finances.
Ce serait vraiment apprécié si les gens faisaient preuve d'exactitude et reconnaissait qu'il n'y a pas de déficit record, comme le prétend l'opposition. À 1,5 % du PIB, en fait, on se compare très bien avec les autres juridictions du Canada.
OK, Gab, tu nous as déjà dit un matin, après le dépôt du budget de l'an dernier, qu'Éric Girard était sur le podium, c'est-à-dire pour la médaille d'or et la médaille d'argent pour les pires déficits de l'histoire. Comment ça, Éric Girard, c'est pas ça?
Ben, c'est un peu troublant, comme c'est le ministre des Finances depuis quelques années. Je suis persuadé qu'il a accès aux données. Non, non, mais faut juste être sérieux un petit peu. Là, quand on regarde l'état des finances publiques au Québec, on le sait très bien que le 12,4 milliards qui est projeté pour l'année actuelle budgétaire, c'est le record au Québec. C'est assez clair. Puis tu sais, on a quand même une décote là au Québec l'année dernière en avril. Puis qu'est-ce que ça nous disait?
Ben, c'est ça.
Ça va pas très bien.
Et là, tu m'amènes sur la décote et voici la question qui tue. Est-ce la menace référendaire qui nous fait payer 0,05% de plus sur nos prêts ou est-ce la décote?
Ben là, c'est la question, mais en même temps, je me dis, je pense que c'est assez clair. Là. Il y a deux éléments. La question de la menace référendaire, est-ce que ça peut amener de l'incertitude? La réponse est oui. Si on le dit concrètement, ça se peut. Mais là, soyons sérieux. Là. La décote, pourquoi on a une décote? Trop de dépenses en capital, pas de retour crédible à l'équilibre budgétaire. Je pense que le ministre le sait, là. C'est assez clair. Puis si on le sait, si on explique que c'est vraiment juste à cause du référendum, mais donnez-nous les papiers, expliquez-nous ça concrètement avec des sources. Je pense que c'est assez clair. Puis on essaie de rentrer dans la politique ici, là, mais il y a eu une mauvaise gestion des finances publiques là, au sein de la coalition Avenir Québec. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Gabriel Giguère, hier, j'ai regardé la Caisse de dépôt et de placement faire son bilan. On m'a rapporté qu'on avait des rendements de 9,3%. Et là, on a tout de suite mis comme diapositive l'Ontario, c'est 6% parce qu'on se compare toujours avec l'Ontario. Mais Colin, l'indice de référence, c'est 10,9. On est bon ou on n'est pas bon?
9,3%, ça peut paraître beaucoup, puis c'est pas mauvais en soi, mais t'as raison de le dire, il faut se comparer à notre indice de référence qui est à 10,9, donc on est quand même sous l'indice de référence, et quand on regarde, là, d'abord, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ça gère quoi? Ça gère le régime des rentes du Québec, donc notre bas de laine québécois, la REGOP, le Fonds de pension des travailleurs du secteur public, le portefeuille de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, on a des titres boursiers qui ont relativement bien fait à 17,7% l'année dernière, mais ça reste sous l'indice de référence. On a également les immeubles infrastructures. Ça fait des années à la Caisse de dépôt et de placement du Québec qu'on en arrache avec ça. On peut penser aux tours à bureau avec la pandémie où les rendements étaient très faibles. Et les placements privés, là, c'est un désastre l'année dernière. Un vrai désastre. 2,3% de rendement contre un indice qui est à 12,6. Fait qu'on est on a 10 points de pourcentage de différence. Bref, c'est pas que ça va pas bien, c'est que ça pourrait aller mieux. Et quand on compare ça à d'autres types de portefeuilles, style FNB, on comprend qu'on paye beaucoup de monde à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Là, faut quand même rappeler que les frais de gestion des portefeuilles, c'est plus de... En fait, c'est 0,74% de frais de gestion. Puis quand on regarde ce qui est FNB, là, des fonds négociés en bourse, on est plus vers du 0,2, 0,1. Donc, des fois, on se demande, coudonc, ça serait-tu plus simple de mettre de l'argent dans des fonds négociés en bourse qui coûteraient moins cher et qui ont un meilleur rendement que notre caisse actuellement qui coûte pas mal cher en gestion? Je pense qu'il faut se poser la question. L'autre élément qu'on a vu également concernant la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est quand même la part dans le portefeuille québécois. On se rappellera que là, on est à 100 milliards de dollars environ, donc on gravite autour de 20% du portefeuille de la Caisse de dépôt et de placement du Québec investi au Québec. On apprend qu'on n'a plus de cible à court terme, mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Tout le monde se rappelle en novembre 2025, on a eu le dépôt de la vision économique du gouvernement du Québec. Et dans cette vision économique-là, ce qu'on nous dit, c'est « Faites attention, on est bientôt à 100 milliards, mais vous allez voir, on va avoir toute une cible en 2030 pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec, plus d'argent au Québec. » Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, soyons très clairs.
Toi, quand tu dis faudrait peut-être voir ailleurs, investir ailleurs, quoi que ce soit, est-ce que tu penses que c'est si simple que ça ou faudrait une façon de refaire un petit peu nos conversations? Oui, mais nos affaires, point, et que ça pourrait déstructurer au complet le marché?
Ben, moi, je pense qu'il faut juste réimaginer ça au sein du gouvernement du Québec. D'abord, pourquoi les Québécois et les Québécoises doivent obligatoirement envoyer leur argent dans le cadre de la RRQ à la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui est gérée? Il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Là, on pourrait dire au gouvernement du Québec, Pascal, JF, Gabriel, vous êtes obligés de mettre le 5%, 5,4% environ de votre salaire annuel là, de côté, mais pas avec la RRQ qui est gérée par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Vous pouvez le mettre dans un autre fonds. Comme ça, ça fait en sorte que, oui, vous avez votre coussin financier, vous allez avoir des versements plus tard à votre retraite, mais ça ne sera pas nécessairement géré par la CDPQ, hein, la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il y a des possibilités alternatives. Et quand on regarde le rendement, je le répète, 9,3%, c'est pas mauvais comme rendement. Mais si on peut aller chercher plus ailleurs, je vois pas pourquoi on ne serait pas libre, tout un chacun, de choisir où on envoie notre argent.
T'as tellement raison, Gabriel Gigard. C'est toujours un bonheur de te parler. Tu nous éclaires sur des enjeux économiques en quelques minutes. Des enjeux que je suis pas capable de comprendre, sinon. Merci.
Ben, c'est un bonheur partagé. Bonne journée.
Salut, Gabriel Gigard, analyste politique senior au niveau de l'Institut économique de Montréal. Pascal, t'es-tu énervé?
Pourquoi?
Mais c'est le Canadien, toi!
Ah!
19h!
Hey, j'aurais dû m'en douter que c'était pas
le retour du capitaine Nick Suzuki sur la patinoire après sa décevante médaille d'argent aux Jeux olympiques.
Est-ce que je devrais l'être? Donc, si j'étais fan
ben
du
oui.
Canadien...
Oui, okay. Ah oui, ça fait tellement longtemps qu'ils ont joué. Le Québécois Zachary Bolduc sera laissé de côté. C'est le retour d'Alex Newhook dans l'uniforme du Canadien. Le match est à compter de 19h. Je vous souhaite un excellent match de hockey. Pascal, on se reparle demain?
Sans faute.
Excellent. Bon après-midi, guys. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même. Et Marceau du soir avec Olivier Primois à compter de 18h.